savoir reconnaître que l'autre n'est pas pareil que moi et que sa façon d'être, ses comportements, ses façons de faire, ses rituels ont autant d'importance pour lui que les miennes l'ont pour moi.
Bienvenue dans le podcast des intelligences collectives. Je suis Sophie Franz, créatrice de l'agence Comarketon. C-O-M-A-R-K-E-T-O-N-S pour ceux qui me chercheraient sur le web. Je suis passionnée de marketing et de psychologie et je pars pour vous à la découverte du vaste monde de l'intelligence collective. Tous les 15 jours depuis maintenant 5 mois déjà, je converse avec des invités géniaux sur ce sujet. Je cherche avec eux à comprendre comment le faire ensemble fonctionne, mais aussi pourquoi il ne fonctionne pas toujours. Avec mon invité du jour, Nancy Bragard, coach interculturel en entreprise, j'ai voulu parler de nos spécificités qu'on appelle aussi nos cultures. Nancy nous explique leur importance et le pourquoi des malentendus légers ou désastreux qu'elles engendrent. Avec elle, nous recherchons dans cet épisode des solutions pour dépasser tout cela. Dans ce contexte spécial que nous vivons actuellement en cette fin d'année 2020, le démarrage de l'interview est un peu difficile. Mais l'accent chantant de Nancy et son expertise profonde vous emmèneront, comme moi je l'espère, sur la voie de la richesse interculturelle. Je vous souhaite une bonne écoute et je mets de suite le lien du modèle de sensibilisation dont parle Nancy dans la description du podcast. C'est ultra intéressant. Bonne écoute!
Bonjour Nancy!
Bonjour Sophie!
Bonjour à toi. Alors, on est le 30 octobre, le premier jour du reconfinement. Alors, c'est vrai que la situation est assez particulière. On avait toutes les deux un interview prévu le 15 octobre. On a eu des soucis techniques et c'est vrai que là, je me dis, c'est quand même fou ce qui s'est passé en 2 semaines.
Tout à fait.
On souhaite parler ensemble de culture parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux. Mmh. Et puis, entre-temps, il y a eu... cet assassinat donc, de Samuel Paty et hier encore un terrible assassinat de 3 personnes à Nice. Je pense qu'on est en plein dans le sujet, j'ai envie de dire malheureusement, et ce que je te propose, généralement je fais plutôt des inclusions sonores pour savoir comment tu vas, mais là j'aurais souhaité, si tu es ok avec ça, faire plutôt un temps de silence pour tous ces drames, j'ai envie de dire.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi Sophie. Très belle idée pour démarrer.
Ok, bah écoute, on va se prendre quelques secondes ensemble. Merci. Bon bah écoute, on va repartir. C'est vrai que c'est un démarrage d'interview qui est pour moi... un peu difficile aujourd'hui, mais je suis très très contente que tu acceptes de partager ton histoire et ton savoir avec nous. Est-ce que tu peux te présenter Nancy, ton parcours et nous dire aussi pourquoi tu es là aujourd'hui? Comme je disais, on parlait de culture et je suis très contente de parler de ça avec toi aujourd'hui.
Ouais, ok, très bien. Mais écoute, de culture et surtout d'interculture, je voulais d'abord, Sophie, te remercier de démarrer de cette façon, parce que en le faisant, tu déploies ce qui est pour moi vraiment la valeur la plus importante dans ce que j'appelle l'intelligence interculturelle, c'est l'empathie. C'est-à-dire pouvoir reconnaître que l'autre n'est pas pareil que moi et que sa façon d'être, ses comportements, ses façons de faire, ses rituels ont autant d'importance pour lui que les miennes l'ont pour moi. Et c'est pas donné à tout le monde et c'est malheureusement pas une valeur. Je pense que l'humanité serait vraiment bénéfique à le voir plus déployé que ça ne l'est aujourd'hui. Donc merci à toi de l'avoir déployé là. C'est en fil rouge sur tout ce qui est l'interculturel et l'intelligence interculturelle. C'est l'empathie, le respect pour l'autre et l'empathie pour sa façon d'être. Alors, moi-même, si tu veux, oui, je t'en prie. Je suis un bel exemple de ce que c'est que l'interculturel. Je pense que là, j'ai assez parlé pour qu'on puisse détecter un accent.
Bel accent américain, alors, c'est ça?
Voilà, c'est bien ça. Moi, j'ai grandi aux États-Unis, j'ai appris le français à l'école. Mais je suis tombée amoureuse de la France, de la langue et après un certain français. Et je suis venue m'installer en France, j'avais 23 ans. Donc, ça fait bien plus longtemps que je suis en France qu'aux États-Unis. J'ai les deux passeports, les deux nationalités. Je peux voter dans les deux pays, je paie des impôts dans les deux pays. Et d'ailleurs, quand on me demande, alors, Nancy, are you French or American? J'ai horreur de cette question. Parce qu'en fait, je suis les deux, et puis on me nargue, on me taquine. Oui, mais where is home? Où est-ce que t'es vraiment chez toi? Et moi, je réponds toujours, chez moi, je suis chez moi dans le cœur, peu importe où sont mes pieds. Et c'est vrai que je vis en France, c'est ma résidence principale, mais je vais aux États-Unis au moins une fois par an. Je passe grosso modo de 2 à 3 mois par an cumulés aux États-Unis. Donc, c'est toujours home. Je dis souvent d'ailleurs, I'm going home. Et puis après quelques semaines home, eh ben, je reviens home. Et il fut un temps quand j'étais jeune adulte, c'était problématique. Ça me donnait des difficultés d'identité personnelle. Qui suis-je en fin de journée? Mais aujourd'hui, j'arrive à très, très bien assimiler et à sauter d'une culture à l'autre. On va en parler tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Et je vais refaire un petit retour en arrière, comment on s'est connus. En fait, j'avais demandé un contact pour faire un épisode sur le World Café. Et du coup, je crois que c'est Laure Ledouarec qui m'a dit « Contacte Nancy, elle est super sur ses aspects d'intelligence collective. » Et en regardant en fait ton parcours, bah, moi qui suis aussi de double culture, puisque je suis née au Brésil et j'habite en France, et qui suis très marquée, un peu comme ce que tu décris avec... Alors moi, je suis revenue assez petite, j'avais 3 ans, donc bon, je me sens quand même assez française, mais par contre, je suis vraiment marquée par la double culture, et je suis persuadée que c'est une richesse qui est dingue et folle, et que j'ai vraiment envie de cette diversité, et pour moi, et pour les autres, et je me suis dit, quand j'ai vu ton parcours, et aussi que tu avais été, alors je sais pas si tu dis coach interculturel ou autre chose, j'avais vraiment envie de parler de ça avec toi, quoi.
Il est vrai que quand j'ai découvert l'interculturel, parce que bon, moi ma formation initiale, c'est pour être enseignante, j'étais prof pendant des années, mais je m'occupais justement d'un groupe d'Américains, d'étudiants américains en France, et le faisant, j'avais plusieurs casquettes, et la casquette que j'aimais le mieux, c'était de les aider à comprendre qu'il y avait une logique derrière l'intelligence de l'autre.
Et du coup, toi, tu accompagnais les entreprises aussi, c'est ça, sur ces différences culturelles dans ton parcours, hein?
Voilà, c'est quand ce job dont je te parle, j'avais 28 ans. Mais j'ai découvert, d'accord, moi, une vocation. J'ai dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aider les uns et les autres, de comprendre qu'il y a une logique derrière le comportement de l'autre et qu'il faut aller chercher cette logique pour arriver à justement avoir l'empathie et le respect et mieux comprendre et identifier pour une équipe multiculturelle quelle est l'autre façon de faire. C'est pas ma façon ni ta façon, mais c'est une négociation et une façon de faire qui va convenir à tout le monde, qui sera appropriée pour tout le monde. Et donc, bon, je suis retournée à la fac pour étudier communication interculturelle, le conseil, etc. Et je me suis lancée, c'était en 97-98, quand on parlait pas trop d'interculturel chez les RH. C'était un peu trop soft à l'époque. D'ailleurs, quand je suis allée voir pour essayer de vendre ma soupe, on disait, oh, ben, vous savez, ce sont des professionnels et ils vont très bien, ça va très bien se passer. Mais en cherchant bien, les expats qui n'avaient pas été préparés pour l'expatriation, c'était souvent des retours anticipés. Et j'ai réussi avec le temps, ça a mis quand même du temps, et bon, j'étais pas toute seule, c'est RH qui a aussi compris que l'interculturel est en fait une pratique de management. Et que, d'accord, l'intelligence interculturelle, bah oui, il faut comprendre que dans différentes régions du monde, il y a la notion de face, par exemple, qui est très très importante pour les Asiatiques, pour l'Est en général. Alors que
de face, c'est-à-dire
C'est-à-dire comment je suis perçue par l'autre.
D'accord.
Donc tu vois, admettre une erreur, c'est tu perds la face. dans les...
D'accord, ok, j'ai compris.
Alors qu'en Amérique du Nord, bah, tu as fait une erreur, tu l'annonces. Et puis, tu dis, you learn through errors, on apprend par l'erreur. Et donc, l'erreur est une opportunité d'apprendre et non pas quelque chose qui te fait perdre la face. Et ouais, c'est très, très important d'avoir ce roadmap, ce navigateur quand on est manager et qu'on est d'ailleurs aujourd'hui. Je veux dire, l'interculturel aujourd'hui, c'est toute équipe, même l'équipe franco-française, l'interculturel y joue.
Parce que justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce que la culture pour toi ? Enfin, comment on définit une culture ? Parce qu'en effet, par rapport à ce que tu dis, je pense qu'on n'est pas forcément dans deux pays différents.
Moi, je dirais que la culture, on partage un dénominateur commun. Et avoir une même culture, on peut partir, c'est pas toujours une bonne idée, mais on peut le faire, partir avec des présomptions. Donc, on va aller plus vite quand on est de la même culture, quand on partage une même culture, on va aller plus vite parce que je vais pouvoir présumer que ce que je vais dire va être compris de la façon dont je l'entends, tu vois.
D'accord.
Donc, c'est surtout ça, c'est partager ce dénominateur commun qui va nous permettre d'aller plus vite et peut-être, c'est ce qu'on pense en tout cas, de construire une confiance qui est essentielle dans le travail plus rapidement. Par contre, là où on est plus pauvre, dans une équipe, on va dire, nationale, monoculturelle, c'est qu'il n'y a pas cette diversité de perspectives, d'idées, de façons de faire.
On est vraiment dans l'aspect intelligence collective, faire ensemble et construire, s'enrichir des différences. Parce que finalement, la culture peut être aussi dans un groupe national des différences qui font que finalement, il y a des cultures, même d'entreprises ou ce genre de choses qui sont finalement différentes. Et c'est comment est-ce qu'on les fait travailler ensemble,
Oui, ça je le souligne parce que souvent on dit « ouais, culture, il y en a marre d'entendre dire les Chinois comme ça, les Allemands comme ça, etc. » J'ai dit « d'abord, ça vous ne me l'entendrez jamais dire. » Et puis quand on dit culture, c'est pas seulement la nationalité, comme tu dis, c'est l'organisation, c'est même la fonction. Il y a une autre culture à finance qu'il y a en RH. Et donc, il faut justement le décliner à tout regroupement. C'est pour ça que quand tu parles d'intelligence collective, et effectivement, il y a une différence dans l'intelligence collective d'une fonction à l'autre et la rencontre n'est pas toujours évidente. Alors, ce que je voulais rajouter, ce qui est très drôle, et ça, j'ai mis un certain temps à le voir, mais quand tu prends la différence, alors je prends la différence entre le verre est à moitié plein, le verre est à moitié vide, ça vient colorer la perception de l'un vers l'autre. C'est-à-dire, les Américains trouvaient que les Français étaient, dès le départ, que c'était des plombeurs, négatifs, qui traînaient des pieds. C'était leur perception
et,
dès le départ, quoi. Et parce qu'ils avaient eu d'autres équipes où ils voyaient ce même le véritable moitié vide. Et puis, en fait, le français, c'est que il veut être sûr avant de démarrer. Il veut avoir vu, le niveau de tolérance de l'incertitude pour le français est très bas. On n'aime pas qu'il y ait l'incertitude. Alors que l'Américain, c'est just do it.
Du coup, chacun arrive avec ses préjugés, ses biais de confirmation, c'est ça. Ils voient aussi ce qu'ils veulent voir. Dans la posture de l'autre, c'est ça. Et du coup, ça amplifie peut-être la pensée.
C'est ce que j'allais dire. Ça amplifie les jugements de valeur qu'il peut y avoir. Et donc, moi, quand je l'ai rencontré, je mettais à plat tout ça. D'abord, je les faisais dire, parce que c'est important de les nommer. Et c'était souvent très rigolo, d'ailleurs, d'entendre de part et d'autre. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Tu vois, par exemple, chez l'Américain, cette notion très friendly, on se tape dans le dos, on s'appelle toujours par le prénom, bon, il n'y a pas le tutoiement, le vouvoiement, ça aide les choses. Et ils sont souvent à dire, mais c'est extraordinaire, c'est awesome, c'est brillant. Et le français, il a souvent la perception de l'américain comme un enfant de cœur, quoi. Mais quand est-ce que c'est mauvais ? On ne les entend jamais dire c'est mauvais. On dira plutôt, tu pourrais peut-être faire un peu mieux, mais jamais on va dire... On va dire c'est mauvais. Donc effectivement de faire d'abord un mise à plat en nommant les perceptions pour ensuite dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire, quel est votre objectif, quel est votre cahier des charges, quelle est votre intention, et qu'est-ce que vous pouvez faire sachant ce que vous savez maintenant de l'autre. Et là, on arrive à construire une nouvelle façon de faire en fonction de la culture.
Et là, on est un peu juste, enfin, on essaye de trouver des bonnes façons de faire pour, on va dire, deux cultures différentes. Est-ce que on parlait ensemble en off des degrés de sensibilisation Milton Bennett? Est-ce que ce que tu décris là en termes de mise à plat, etc., est-ce que c'est justement une des phases de ces sept étapes?
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Oui, je vais en parler. Alors, Milton Bennett, qui est un universitaire américain dans l'interculturel, c'était un de mes profs et mentors de l'époque. Et quand il a sorti ce modèle que j'ai trouvé extraordinaire, ça m'a, parce que j'étais déjà à l'époque, ça faisait trentaine d'années que je vivais en France, et j'étais dans cette époque où j'avais du mal à m'identifier moi, qui suis-je moi à la fin de tout ça.
Et le modèle... Par rapport au français, ou quand tu dis identifier, justement, est-ce que c'est quand on arrive dans une autre culture, la difficulté de s'intégrer dans la culture, ou est-ce que c'était autre chose?
Non, c'était une confusion par rapport à mon fort intérieur et à qui je suis. Est-ce que je suis l'américaine adaptée à la France, ou est-ce que je suis la française d'origine américaine, mais entièrement française? J'avais du mal à vraiment saisir... mon identité à moi, nationalement, culturellement.
D'accord. Est-ce qu'on peut parler de mal-être, de difficultés vraiment profondes? Et bon, je pense aussi, parce que là, c'est des cultures qui sont assez proches. Du coup, quand toi, tu dis ça, on peut se dire, en effet, des cultures plus éloignées, c'est un moment qui est compliqué. Hein.
Oui. Je dirais pas mal-être, mais c'est vrai qu'une difficulté d'appartenance. Tu vois, je vis en France, donc je suis le plus souvent ici. Et comme je parle assez bien français, on a tendance à oublier que je ne suis pas française. Et je sais qu'un jour, on était en train avec les amis de discuter et puis il était question de Romain Gary. Alors j'ai dit, c'est qui Romain Gary? Mais comment? Mais c'est pas possible, mais t'es inculte à ce point. Je dis, les amis, rappelez-vous, je n'ai pas été éduquée ici. Donc ne pas me sentir complètement française, et quand je suis chez moi aux États-Unis, être surprise par les comportements tellement américains qui, pour moi, devenue française, me choque, tu vois.
D'accord.
Donc, c'est se trouver un peu in the middle, entre deux, et ne pas pouvoir vraiment s'identifier entièrement. Alors, ce qui s'est passé, et ça c'est classique, et ça fait partie d'ailleurs du modèle, c'est qu'avec le temps, au lieu de voir on n'est ni entièrement chez l'un, ni entièrement chez l'autre, on dit « mais quelle richesse !» Je suis en eux, tu vois, mais c'est un parcours. Ça c'est le donc justement je suis les deux, et quelle richesse, c'est le dernier la dernière étape de ce modèle.
Cette étape. Ouais. Bah écoute, du coup je vais te laisser nous présenter un peu ce modèle. Je trouvais ça super intéressant quand tu m'en as parlé.
Écoute, alors je vais quand même nommer plutôt le modèle de Philippe Rosinski, qui est belge, qui s'est complètement inspiré du modèle de Milton Bennett. Et donc, il y a sept étapes. Les trois premières sont dans ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, c'est-à-dire ma culture, c'est la bonne, c'est la seule, il n'y a que comme chez moi qu'il faut faire. Et c'est typique de celui qui n'a pas voyagé. C'est très peu aujourd'hui, cet ethnocentrisme, à ce point, parce qu'on a Internet, donc on n'a pas besoin de bouger chez toi pour bouger. Et donc, les trois étapes de l'ethnocentrisme, c'est d'abord ignorer les différences, de dire, en fait, il n'y a pas de différence, on est tous pareils, il n'y a aucune reconnaissance d'une autre culture, c'est juste pas possible. Donc ça, c'est sûr, il n'y a jamais bougé. Le deuxième, c'est, donc on s'éloigne un peu de cet ethnocentrisme, c'est reconnaître les différences, mais les évaluer de façon négative. Ouais, t'as vu comment ils font les Italiens, c'est du n'importe quoi, ils sont dans la rue à manifester. Donc de voir qu'effectivement il y a des différences, mais de les juger de façon négative. Et c'est là où on voit des préjugés, des sentiments de supériorité, etc.
D'accord. Est-ce que je vais rebondir sur ce que tu disais. Donc, pour toi, l'ethnocentrisme, aujourd'hui, ben, avec les réseaux sociaux, etc., ben, il y en a de moins en moins, on va dire, les personnes qui n'ont pas voyagé. Du coup, je pense justement avec Internet, cette histoire de reconnaître les différences, mais les évaluer de façon négative, comme tu disais, est-ce que c'est finalement quelque chose qui peut être aussi... je dirais, amplifié par les réseaux, j'ai envie de dire, je suis en train de penser aux réseaux sociaux, notamment aux fake news, ce genre de choses. Oui. Cette évaluation négative, est-ce qu'elle est encore plus compliquée aujourd'hui ?
Alors, elle est plus compliquée parce que c'est effectivement les réseaux sociaux, c'est venu vraiment raccourcir et donc intensifier les stéréotypes qu'il peut y avoir. Mais en même temps, par les réseaux sociaux, on a moins tendance à rester dans ce première étape de ignorer les différences, tu vois. C'est très facile. Sur n'importe quel smartphone, on peut voir qu'il y a différentes cultures et différentes façons de faire. Mais tu parlais de l'ethnocentrisme. Ethnocentrisme, c'est les trois premières étapes et c'est de dire ma façon de faire est la bonne et je ne peux pas accepter qu'il y ait d'autres façons de faire. Donc, j'en étais à la deuxième qui est reconnaître la différence, mais les évaluer de façon négative. Donc, c'est là où on voit les préjugés. La troisième, c'est reconnaître les différences, mais minimiser leur importance. Et c'est là où on dit, oui, de toute manière, on est tous pareils. Moi, je veux bien les méridionaux se mettre en colère, mais les Américains aussi, mais de façon différente. On est... Donc, de ne pas en tenir compte de ces différences culturelles. Donc, ça... Ça, c'est les trois premières étapes. Après, dans les quatre dernières,
je vais juste te poser une question. Après, je te laisse répondre les quatre. Est-ce que pour vous, est-ce que pour toi, Milton, ou enfin voilà, est-ce que c'est chronologique? Est-ce que c'est des étapes par lesquelles on passe régulièrement ou comment c'est pensé ces étapes?
Non, c'est assez linéaire. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on s'éduque, qu'on voyage, qu'on sort, qu'on voit du monde.
On discute,
on
partage, c'est super.
Voilà. J'ai compris. Donc c'est effectivement un developmental model. D'ailleurs, lui-même, il appelle modèle de développement.
Super.
Voilà. Donc les quatre dernières, c'est dans les approches ethno-relatives, c'est-à-dire là où on dit, ok, moi j'ai ma culture, je reconnais qu'il y a d'autres cultures et je commence à voir que ces autres cultures ont autant de validité pour les leurs que la mienne a pour moi. Donc, l'ethno-relativisme, c'est là vers où on tente d'aller. Et quand je parlais de l'intelligence interculturelle, c'est au bout de cet acheminement vers l'ethno-relativisme.
Et quand tu dis « on tente d'aller », tu penses à qui quand tu dis « on »
Bah, les managers aujourd'hui dans le monde du travail, ceux qui ont à manager des équipes multiculturelles, les chefs d'État.
En fait, moi je suis en train de me dire, c'est tous ceux qui ont envie de faire ensemble, quoi. Enfin, par rapport à ce que tu dis.
Voilà.
Je pense que c'est en entreprise, mais aussi au-delà. Et oui, ce que tu dis, le chef d'État typiquement, et ça fait bien écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Ok.
Je dirais toute organisation, l'école aussi.
Tout à fait. Ouais.
Alors, donc là, j'en suis à la quatrième étape de ce modèle, c'est reconnaître et accepter les différences. C'est de dire, ok, d'accord, maintenant, c'est comprendre la logique derrière l'intelligence de l'autre et de comprendre le pourquoi de son comportement. Ensuite, c'est s'adapter aux différences. Donc, c'est là où commence la prise de risque. Parce que s'adapter aux différences, c'est... pas seulement les reconnaître, mais bien vouloir rester 4 heures à table un dimanche après-midi. Ça, c'était très difficile pour moi, l'Américaine, qui est vraiment dans le fer, d'arriver en France et de s'asseoir à 1 heure et à 5 heures, on est toujours à table.
Tu vois, c'est clair.
Voilà. Donc, et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis choquée aux États-Unis de voir que 3 quarts d'heure, les gens se lèvent pour partir. J'ai dit, mais attends, mais tu prends un train ou quoi? On vient d'arriver, quoi. Ensuite, le sixième, donc l'avant-dernière, c'est intégrer les différences. Et donc, c'est là où on est capable d'envisager une situation sous des angles de référence multiples. On va encore plus loin vers l'ethno-relativisme à reconnaître et intégrer les différences. Et la dernière, c'est ce qu'il appelle tirer parti des différences. Et c'est là où on recherche la meilleure de chaque culture et de chaque manière de voir le monde. Et c'est là où j'en suis moi aujourd'hui, et toi aussi, à mon avis, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle le fameux code switching. Dans une situation, d'évaluer rapidement, on le fait inconsciemment, quelle va être ma façon de d'agir par rapport à ce qui vient de se faire. Eh ben, ça va être différent si je suis en France ou si je suis aux États-Unis, tu vois. Et le code switching, on n'y pense même pas. Les biculturels ou les multiculturels n'y pensent pas. Ils le font de façon automatique. Et là, c'est vraiment reconnaître le relativisme de chaque culture. Et on n'est plus du tout dans les jugements de valeur. On est beaucoup plus dans la curiosité.
Et comment tu appelles ça? Code switching, c'est ça? Code.
Voilà.
Code. Et est-ce du coup, toi, code switching, tu le décris, je vis une situation, donc je suis au Brésil, je vis une situation, et finalement, par exemple, tu parlais de l'exemple des repas, au Brésil, on s'assied pas tous ensemble à table, mais chacun prend son assiette un peu quand il veut, y a personne qui est vraiment autour de la table. Mmh. Le code switching, c'est, ok, moi j'arrive là-bas, je sais que c'est comme ça, et du coup, je fais comme eux. Est-ce que c'est ça que... D'accord.
Okay. Il est beaucoup plus facile d'imiter un comportement que d'imiter, de s'approprier une attitude, une croyance. Le code switching, c'est beaucoup plus... Je vais te donner un exemple concret. C'est la ponctualité. Tu vois, la ponctualité... En Angleterre ou en Allemagne, si tu as 5 minutes de retard, ça vaut au moins des excuses. Et donc, moi, je sais que j'ai beaucoup plus, je regarde plus l'heure quand je suis en Amérique du Nord que quand je suis dans le sud de la France.
J'ai l'impression que cette notion de code switching, pour moi, elle est aussi liée à une notion de respect de l'autre, parce que tu sais que pour lui, c'est important, et du coup, en effet, tu vas accorder une importance qui n'est pas la tienne, mais parce que tu respectes l'autre, tu vas y accorder cette importance.
Absolument.
Mais je pose une autre question. Dans les 7 étapes que tu viens de définir, pour moi, on peut respecter l'autre, et je ne sais pas s'il y a une phase où justement je respecte l'autre, mais en même temps, je sais que je m'enrichis de l'autre. J'essaie de voir avec toi à quel moment et quelles sont les difficultés pour ne pas arriver à ce stade-là.
Mm-hmm. Ouais. Selon Bennett et Rosinski aussi, il faut de toute manière traverser ces 7 phases. Et okay. D'ailleurs, le modèle, quand il est vraiment dans son... quand il est complet, on donne aussi quelles sont les caractéristiques de cette stade et quelles sont les aides, le soutien que peut porter le coach pour une personne dans ce stade. Il faut parler à celui qui est dans le 3e stade pour le faire passer du 6e au 7e. Il comprendra rien.
Donc, mais du coup, c'est des exercices de coaching que vous faites. Hein. C'est justement, tu es un coach interculturel et tu vas accompagner cette personne, je ne sais pas.
Tout à fait, oui. Ouais.
D'accord, ok. Alors, okay.
Moi, je ne suis pas certifiée. Le modèle de Milton Bennett, c'est un modèle pour lequel on peut se certifier. Et c'est vraiment, c'est effectivement d'abord voir en discutant, et il y a même un questionnaire pour que l'intéressé puisse voir où il en est sur les 7 étapes. Et puis, il y a différents moyens de soutien pour le faire avancer sur les... Alors, moi, je n'ai jamais été autant dans les détails, mais quand je préparais un expat français pour partir aux États-Unis, je faisais des mises en situation et je lui demanderais comment vous réagirez dans telle ou telle situation. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'était beaucoup plus, valorisant de faire, et beaucoup plus bénéfique pour l'expat, de faire du coaching après son arrivée dans le pays cible qu'avant. Parce que quand tu le fais avant, ça reste un peu théorique, c'est
d'accord,
me le dites, ok. Alors que après, quand ils y sont, moi je ne faisais jamais le coaching avant 1 mois à peu près.
Parce que c'est vraiment vivre les choses quoi.
Galérer d'abord un petit peu et puis venir avec des expériences. Parce que là, tu peux travailler aussi les émotions. C'est très important de ne pas rester dans la tête, mais de travailler le ressenti, les émotions, l'accueil, comment vous avez vécu de telle ou telle chose. Et du coup, les apports et l'apprentissage est beaucoup plus fort.
Alors là, on est vraiment dans le cadre pro et c'est super intéressant ton partage au niveau des expats et on voit que c'est compliqué. Et là, du coup, je pense aussi à ce qui se passe aujourd'hui, à l'aspect plus citoyen. Quand on n'a pas un coach interculturel, on doit faire quoi en tant que, j'arrive d'un pays étranger, j'arrive en France pour arriver à passer ces 7 étapes, c'est quoi, d'après toi, est-ce que c'est du soft skill ou est-ce que c'est, je sais pas, de l'ouverture ou comment est-ce qu'on arrive seul à atteindre ces 7 étapes?
Alors, d'abord, il faut vouloir, parce qu'il y en a pas mal qui ne le souhaitent pas, qui mettent un... Moi, j'ai vu dans les expats, souvent, c'était l'époux ou l'épouse, souvent, c'était l'épouse, qui mettait tout simplement une parenthèse autour de sa vie pendant l'expatriation de son époux. Sinon, moi, ce que je... Donc, il faut vouloir. Et puis, il faut... c'est par la relation avec quelqu'un. Moi, je conseille toujours, trouve quelqu'un dans ton entourage, soit au bureau, soit un ami, un voisin, quelqu'un avec qui tu as une bonne relation et chez qui tu peux emmener tes histoires challengeantes. Quand il t'arrive quelque chose que tu ne comprends pas, et cette personne peut t'aider à défaire, à déjouer justement quels sont les éléments culturels. Et puis, dans une première phase, être très, très dans l'observation, de voir comment les choses se font, de voir quels sont les comportements. Tu vois, en France, par exemple, il y a beaucoup plus de papotage dans les couloirs, les gens vont à la pause café, Radio Moquette est un concept qui est très important. Aux États-Unis, on est, encore une fois, on est dans le faire, donc on va chercher son café et le ramener au bureau. C'est des choses qu'on, oui, on les découvre, mais si on peut être accompagné en même temps, et je te disais, les entreprises qui ont vraiment une responsabilité envers leur workforce, envers leurs employés, ils font de la sensibilisation à l'interculturel.
D'accord, ok.
Et ils voient la différence, d'ailleurs.
Non, mais c'est super intéressant, ouais, de se rendre compte qu'il y a, j'ai envie de dire, un travail hein, à la sensibilisation interculturelle, que c'est pas forcément inné et que justement c'est aussi un apprentissage avec peut-être des techniques, mais aussi, comme tu dis, du vouloir, de l'ouverture, de l'empathie, etc., etc. Du coup, c'est vraiment intéressant. Est-ce que je peux te poser une question? Alors, c'est vrai qu'on a quelques jours des élections aux États-Unis. Est-ce que sur ces aspects interculturels, ces problèmes aussi aux États-Unis avec Donald Trump, est-ce que toi, comment ça se passe? Comment ça évolue? Est-ce qu'il y a un changement de culture pour toi là-bas ou comment tu te positionnes?
Il y a surtout une division, une polarité qui a été créée depuis les 4 ans de Trump. Bon, je te cache pas du tout que je suis contre Trump. J'espère qu'il va perdre. Ça a l'air bien parti pour. Mais en interculturel, justement, tout à l'heure, je disais, il faut de l'empathie, il faut du respect. Lui ne l'a pas quand il parle de tous ceux qui ne sont pas américains. On voit tout de suite le manque de respect. Alors, moi, ce que j'ai traversé un moment difficile parce que depuis 4 ans, je dis un peu de façon effrontée, moi je suis aussi française et je suis très très fière de l'être, donc je brandissais mon passeport français pour dire et je disais vous, je ne disais pas nous, mais là dernièrement je me dis, et c'est surtout depuis que j'ai entendu Obama parler de Biden et de ce que Biden pouvait apporter, j'ai dit là je suis de nouveau fière d'être américain et je me suis rendu compte que je m'étais un peu cachée derrière ma nationalité française face à cette abomination de président qu'on a actuellement. Et donc c'était une belle prise de conscience de ma part de ma double nationalité et combien il est important pour moi aussi de le reconnaître.
Ouais, ça me parle beaucoup aussi avec ce qui se passe au Brésil et Bolsonaro. C'est vrai que moi, j'ai toujours été fière des Brésiliennes et là, depuis 2018, c'est ça. Enfin, j'ai beaucoup plus de mal à le dire et à le porter. Donc, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Je comprends tout à fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que ces personnes-là, tu sais, quand tu décrivais les 7 étapes, et que tu parlais des pièges ethnocentriques, j'ai l'impression qu'il y a un retour en arrière moi j'ai peur de ce retour en arrière, justement avec des personnes comme Trump et Bolsonaro, sur des personnes qui reconnaissent les différences, mais qui les évaluent de façon négative et qui justement en jouent. Je sais pas si c'est j'ai l'impression qu'il y a un vrai retour en arrière. Dans le pays que moi je connais, le Brésil, qui était un peu pour moi le pays du mélange, du brassage, du melting pot, et que là, pour des raisons de peur, j'ai envie de dire, on prend les différences pour les montrer du doigt et en faire du négatif.
Ouais, tout à fait. Bon, il y a aussi l'élément du populisme pour les deux qui rentre en jeu.
Tout à fait.
Tout devient possible pour atteindre le pouvoir, quoi, pour eux.
C'est clair, diviser pour atteindre le pouvoir. Ouais. Et du coup, c'est bien d'avoir ce modèle en tête que tu viens de nous décrire sur les aspects de sensibilisation interculturelle. Je trouvais ça super intéressant de se rendre compte que c'est genre, il y a un travail. Je trouve ça finalement vraiment intéressant.
Et donc, alors, je voudrais nommer une chose aussi, et ça c'est au nom de tous ceux que j'ai coachés pour l'expatriation, c'est qu'il y a un phénomène du retour. Quand on rentre chez soi, l'expatriation, normalement, c'est de 3 à 5 ans. Et le retour à la maison, c'est chacun pense que ça va être tout simple. Parce que bon, je rentre chez moi, je connais chez moi, j'aurais plus besoin de parler anglais ou de m'habituer à cet environnement qui n'est pas le mien. Et en fait, le retour à la maison, on appelle ça « the return syndrome », est très compliqué. Très compliqué parce que, en fait, son chez-soi n'a pas changé, mais soi-même, on a beaucoup changé. On a traversé ces 7 phases d'ethnocentrisme vers l'ethnoconativisme et on retrouve un écosystème qui n'a pas bougé. Et moi, j'ai vu beaucoup, alors, encore une fois, les entreprises qui sont vraiment, vraiment là pour leurs employés, ils les faisaient aussi coacher, ils avaient l'opportunité, l'occasion, s'ils le voulaient, d'être coachés pour le syndrome du retour.
Pour le retour, d'accord, ouais.
Ok. Et j'étais souvent d'ailleurs à chercher la prochaine expatriation pour repartir. Et je n'étais pas contre la France, mais ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient tellement ouvert leur potentiel et les possibilités culturelles que la France tout seul ne leur convenait plus.
C'est génial, c'est top et je trouve que c'est vraiment pour moi, on est vraiment dans l'intelligence collective au niveau mondial, mais c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup, donc je pense qu'en effet quand tu goûtes à ça, t'as envie, tu ouvres tes potentiels et t'as envie sûrement d'aller toujours plus loin, quoi.
Oui, dans c'est le partage. De pouvoir les déployer, quoi.
Mais écoute, merci Nancy pour ce partage concret de ton quotidien de coach, je sais pas comment tu dis, coach interculturel, coach pour expatriés, c'est quoi le terme?
C'est interculturaliste.
Interculturaliste, voilà. Super. Alors je sais que ton activité a évolué depuis et c'est moi qui ai vraiment un peu voulu parler plutôt de cet aspect-là avec toi. Je te laisserai je te laisse, si tu veux, nous décrire un peu ton activité plus actuelle par rapport à l'intelligence collective, parce que les auditeurs sont très intéressés par ce volet aussi. Donc, si tu veux nous parler quelques secondes de ce volet-là.
Bien sûr. Alors, après toutes ces années en interculturel, j'adorais ce que je faisais. C'était vraiment ma vocation. Mais je trouvais qu'il y avait un peu trop d'apport de ma part en tant que consultante. Si bien que quand j'ai rencontré...
D'apport, c'est-à-dire, excuse-moi, d'apport, tu penses...
D'apport de top-down, d'apporter des théories, et pas assez de travailler avec l'existant. Et quand j'ai rencontré la communauté Art of Hosting, l'art d'accueillir des conversations qui ont du sens, qui est vraiment... C'est une communauté de personnes passionnées par l'intelligence collective et qui justement propose des méthodologies participatives telles que le World Café, le Forum ouvert, l'art de la narration, l'approche appréciative, pour faire émerger, pour donner vie à l'intelligence collective d'une organisation. Okay. Et alors, ce que j'ai fait quand j'ai rencontré ça, je continuais à faire de l'interculturel, mais beaucoup plus en facilitant plutôt qu'en formant. Et je fais émerger ce dont cette équipe multiculturelle avait besoin. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, je dirais presque exclusivement, c'est donner vie à l'intelligence collective, c'est-à-dire ce qui fait battre le cœur d'une organisation, d'une entité.
Génial. J'espère faire un jour un épisode sur Art of Hosting, parce que je ne connais pas vraiment et ça m'intéresse beaucoup. Ce que je sais, si je ne me trompe pas, c'est que vous avez, on a la possibilité de participer à des sessions, je ne sais pas si c'est mensuel ou bimensuel, sur Zoom, c'est ça?
Oui.
Vous organisez...
Alors, ça peut se trouver sur Art of Hosting sur LinkedIn ou sur Facebook.
Okay.
C'est un petit contingent de AOH de 3 personnes qui organise toutes les 3 semaines Pendant 1h30, alors ça se prépare à 3 ou 4 personnes, et on n'a pas besoin d'être facilitatrice formée, certifiée ni rien, c'est juste s'intéresser à l'intelligence collective pour contacter ces 3 personnes et dire j'ai envie de faire partie d'une équipe qui facilite, qui hôte, nous on parle de hosting au lieu de faciliter, un de ces appels toutes les 3 semaines, et puis on décide du thème et on planifie ensemble le call qui dure 1h30, où il peut y avoir de 10 jusqu'à 30 personnes. C'est vraiment expérimenté, on va dire, avec l'intelligence collective, et c'est ouvert à tout le monde.
Génial. Bah, je mettrai le lien sur la description du podcast. Et j'espère, je vais essayer de participer à un de ces jours. Ça m'intéresse bien de vivre ça avec vous.
Très bien.
Je me permets de te poser les 3 questions de fin de podcast que je pose à tous mes invités. La première, en fait, c'est est-ce que tu as une ressource, un livre ou une autre ressource que tu aimes conseiller à des amis ou à des connaissances ?
Oui. Alors, c'est drôle que tu me demandes ça parce que c'est un livre, j'ai dû le lire au moins 3 fois et je l'ai ressorti l'autre jour encore. Ça s'appelle « The Art of Possibility ». Alors, il a été traduit et la traduction n'est pas l'art de la possibilité, mais c'est quelque chose d'assez proche. Les auteurs, c'est Benjamin Zander, Z-A-N-D-E-R, et son épouse de l'époque. Et en fait, c'est justement l'art de la possibilité, c'est à partir du moment qu'on reste curieux, on ouvre la place au possible et c'est là où on peut grandir. Et ce livre est juste extraordinaire. C'est une bouffée d'air frais. À chaque fois que je le sors, il n'est jamais très loin. Et parfois, je le prends pour lire un petit bout par-ci, par-là. Et je conseille, si vous lisez l'anglais, de le lire en anglais. Je suis sûre qu'il y a la traduction. Et c'est un livre qui m'est très cher.
Super, merci beaucoup. The Art of Possibility. Génial, merci. Est-ce que tu as une valeur clé ou une idée clé qui te porte en fait au quotidien ?
Ah oui.
Et laquelle ?
Alors, sans chercher du tout, c'est vraiment l'empathie. J'en ai parlé tout à l'heure. Et dans mes worldviews, moi, dans mon fort intérieur, dans ma vision du monde, c'est vraiment l'empathie qui inclut là-dedans le respect, l'inclusion, l'écoute. C'est pour moi la valeur de loin la plus importante, la plus essentielle pour donner l'humanité à nous tous.
Super, ok, merci. Et bah pour finir, c'est une question que je pose à tout le monde et j'aime bien écouter les réponses. Quelle serait pour toi ta meilleure définition ou ta définition de l'intelligence collective ?
Wow. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est ce qui fait battre le cœur d'une organisation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important de le nommer, de lui donner vie, parce que toute organisation a un battement de cœur, a une intelligence collective, mais tant qu'on n'a pas été le sonder, le consulter, lui donner vie, eh ben il est pas su et du coup il n'est pas capitalisé, il n'est pas utilisé comme leverage pour aller plus loin pour cette organisation. Tant qu'on ne connaît pas le battement de cœur d'une organisation, on ne connaît pas son fort intérieur et l'intelligence collective nous permet de le faire.
Merci beaucoup Nancy. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton parcours ou sur tes différents, casquettes, où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'information ?
Bah, d'abord, je veux te remercier toi aussi Sophie, c'était vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Je vois combien je suis passionnée par ces deux sujets. C'est vrai que quand je me présente, c'est les deux casquettes, c'est la casquette de l'interculturaliste et puis la passionnée de l'intelligence collective. Écoute, moi je suis sur LinkedIn, donc j'y vais assez régulièrement. Je dirais que c'est le plus facile pour me trouver.
Du coup, je vais juste te laisser épeler ton nom, prénom, comme ça. Je mettrai tout dans la description, mais c'est plus facile si les gens l'ont tout de suite. Donc c'est Nancy N.
Comme la ville.
Nancy, ouais, voilà. Comme la ville.
Comme la ville. Et puis Bragard, B comme Bernard, R-A-G-A-R-D.
C'est ça. D. Ok. Voilà. Du coup, sur ton link, ouais.
Voilà. Et je ne vends pas les costumes de boucher parce que les établissements bragards, c'est ça, ils font des uniformes de boucher. J'ai de temps en temps des coups de fil.
Ah, d'accord.
On fait des grands uniformes de boucher.
Donc, on peut te contacter si c'est sur des aspects interculturels, intelligence collective, faire ensemble, faire battre le cœur. Mais pour les costumes de boucher, c'est pas la peine.
Voilà, exactement.
Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré. C'était vraiment intéressant et je trouve que c'est vraiment dans l'actualité. Donc merci pour ça.
Avec grand plaisir, Sophie.
À bientôt, Nancy.
So, did you like it? Je me permets de penser que si vous êtes encore là, c'est que yes, you did. Apprendre par le partage est le but de ce podcast. Ceci est mon 11e épisode avec pas mal d'heures de boulot et beaucoup, beaucoup de plaisir pour produire tout cela. Alors, la meilleure façon pour m'encourager à continuer est de me laisser un avis 5 étoiles sur votre téléphone Apple. Cela prend 2 petites secondes et ça m'aide énormément. Merci, ciao !